noir ni blanc. Ni noir ni blanc. Ni noir ni blanc. Pour une vision plus large des choses. Ni noir ni blanc. D'un extrême à l'autre, il y a tout un monde. Au réseau Cogeco, voici Élisabeth Crête et Guillaume Dulude.
Déjà jeudi.
Hey, j'allais dire ça.
Ah!
Exactement.
C'est-tu vrai? Je pense que ton micro n'est pas allumé, Guillaume. Ça se peut-tu qu'on t'entende pas? Attends un petit peu. Vas-y donc voir. Parle donc, là.
Ben,
ah, voilà. Allô, allô. Là, ça va. Excellent.
OK, OK.
On t'avait perdu.
J'avais rien
fait. J'ai pas
ben touché de fil.
Je pense que t'as pas dit de niaiserie.
J'ai rien brisé.
Je pense que ton micro était pas ouvert. Ça va bien?
Ben oui.
Ça commence toujours bien, une émission comme ça. Ça nous fait plaisir d'être avec vous encore une fois aujourd'hui. C'est jeudi déjà. La semaine passe vite.
Oui.
Encore une fois, une émission enrichissante, j'espère. J'espère, en tout cas, que ça va être intéressant de vous entendre. Je suis convaincue que oui. Aujourd'hui, 11h30, courrier du cœur. Oh, l'importance du « je t'aime ».
Moi, je le trouve très cute.
Si vous étiez là hier, vous savez pourquoi on parle de ça. Fallait être là. C'est le genre d'affaire qu'il fallait être là.
Regardez la diffusion, si vous voulez.
Oui.
La diffusion live sur le Facebook. S'il y en a qui s'intéressent, vers la fin, on a une personne qui a fait une intervention très intéressante sur le concept de l'amour. Y croire, pas y croire, le dire, pas le dire.
Une personne du nom de Jonathan, si ça peut vous aider.
Ben
alors,
oui.
Essayez d'aller retrouver cet appel-là. Puis vous allez comprendre pourquoi on parle de ça aujourd'hui. C'est à 11h30. Ensuite, à 11h, on va revenir évidemment sur les excuses de Jeff Molson par rapport au choix de Logan Mailloux pour le Canadien de Montréal, sans parler de ce cas-là en particulier, parce que je pense qu'on en a parlé pas mal là, dans les derniers jours, mais le fait que Jeff Molson s'excuse, ça c'est intéressant.
Ouais.
Quand on s'excuse à quelqu'un, est-ce que vraiment ça répare tout? Alors, c'est ce dont on va parler à 11h. Des excuses, ça vaut quoi pour vous exactement?
Parce ça paraît bien, c'est beau.
C'est vrai que c'est beau, mais pour certains, c'est suffisant aussi. C'est correct, tu t'es excusé, tu as admis que tu avais fait une erreur. On passe à autre chose, puis on continue d'avancer.
Oui.
T'en as d'autres pour qui ce n'est pas assez. Il faut payer encore plus. Il faut être puni. Il faut avoir des conséquences graves. Il y en a pour qui des excuses, ce n'est pas suffisant.
C'est ça.
Alors, ce sera à 11h. Ça risque d'être assez intéressant. Mais d'abord, si vous avez lu la presse ce matin, en une, il y a un article fort intéressant qui s'appelle « Les nouveaux vaccinés ». Et bon, ça commence en disant « Surmontant leurs peurs et leurs hésitations, ils sont encore quelques milliers chaque jour à tendre le bras pour recevoir leur première dose de vaccin contre la COVID-19. Et on parle entre autres de deux jeunes de 16 et 13 ans qui ont reçu leur première dose de vaccin et qui disent carrément que si ça n'avait pas été de l'intervention de leurs parents, ils n'auraient jamais choisi de se faire vacciner. Pourquoi? Il l'explique un petit peu plus loin dans l'article. Il y avait peur, entre autres, des rumeurs qu'on entend autour de la vaccination. T'en as qui ne sont pas du tout qualifiés pour parler de vaccin, mais qui disent que dans 10 ans, 15 ans, tu vas peut-être avoir un bras qui va te pousser dans le front ou qui va avoir des conséquences épouvantables à avoir reçu le vaccin.
Ou l'autisme, peut-être.
Exactement. Mmh. Toutes sortes d'espèces de lubies comme ça qu'on peut entendre à gauche et à droite. Mais quand même, ça a des impacts chez des enfants comme ça. Et eux, c'est pour ça qu'ils avaient peur. Mais les parents sont intervenus et ils ont finalement reçu leur première dose de vaccin. Ils ont surmonté leur peur. Et ça, c'est un thème intéressant.
Oui.
L'importance de surmonter ses peurs dans la vie. On dirait que c'est très valorisé, ça, de surmonter ses peurs. Hein? Tu as réussi à combattre une peur que tu avais. Tu avais peur des hauteurs et tu as sauté en parachute. C'est extraordinaire. Tu as surmonté ta peur. Est-ce que c'est vraiment si utile que ça de surmonter ses peurs? Oui, c'est valorisé. Puis tant mieux si on est capable d'avancer avec une peur de moins. Mais est-ce que vraiment c'est important de surmonter ses peurs, Guillaume?
Je pense que c'est capital de surmonter ses peurs. Mais je pense que ça, c'est important, mais encore plus important, peut-être, c'est identifier quelle peur tu veux surmonter en premier et quelle est la pertinence de ça dans ta vie. Parce que, tu sais, les peurs, là, c'est comme infini. Le cerveau, il est stimulé par toutes sortes de choses. Puis des peurs, il y en a tout le temps. Il y a des vieilles peurs puis qui changent de forme, qui changent de symbole. Puis il y en a des nouvelles. Mais il y a 24 heures en une journée, puis on vit une centaine d'années. Fait que là, à un moment donné, ça peut pas être notre job à temps plein à tous les jours de surmonter des peurs.
Ouais, c'est ça.
Donc oui, il faut surmonter des peurs, mais lesquelles? Et comment on fait pour identifier la peur? Parce que c'est pas toujours clair qu'on a peur. C'est ça qui est compliqué avec le cerveau. C'est que la peur, des fois, on n'en est pas conscient qu'on ait peur de quelque chose, mais on peut l'inférer en regardant l'évitement. Donc, ça, c'est vraiment un des trucs. Si tu veux identifier une peur, faut que tu regardes en premier ce qu'on essaye de contourner. Et là, on a une belle zone de travail. Mais il faut travailler des peurs en fonction des objectifs qu'on a.
Parce ben, c'est ça. Il faut que ce soit utile dans notre quotidien.
C'est ça.
Là.
C'est ça. Donc, l'idée, c'est pas d'être parfait. L'idée, c'est pas d'être vertueux. C'est juste de faire en sorte que notre vie avance. Et donc, il faut identifier des buts qui sont clairs et qu'est-ce qui nous empêche de poursuivre ces buts-là.
Puis je vais te donner un exemple très clair. J'ai pas peur des hauteurs, là, mais si jamais moi, j'avais peur des hauteurs.
Oui.
Dans mon quotidien, je fais pas un métier qui me demande d'être dans une grue ou qui me demande d'être en hauteur. J'ai pas d'activité non plus qui me demande d'être en hauteur.
Oui.
En fait, je suis jamais en hauteur. Honnêtement, ça arrive jamais. Peut-être une fois par deux ans lors d'une activité X, là. Mais sinon, je suis jamais. Ça servirait un peu à rien que je surmonte cette peur-là.
Bon, d'accord. Alors, ça, c'est super intéressant parce que tu peux dire, mettons, stratégiquement, mettons, je te coachais ou t'as un thérapeute, tu dis, OK, ben, regarde, tu vas apprendre en premier le jeu. De surmonter une peur, c'est-à-dire comme exercice, on peut te choisir une peur qui est un petit peu détachée de ta vie, qui est très isolée, puis on va te pratiquer à surmonter une peur. Et quand on devient bon à surmonter des peurs, ça se transforme un petit peu comme un sport, on devient meilleur à le faire de façon transversale.
Okay.
Fait qu'on peut utiliser ça comme exercice. Mais évidemment, on essaye de surmonter des peurs qui sont directement reliées aux objectifs qu'on a pour les choses importantes qu'on veut accomplir, parce qu'évidemment, on a un temps limité.
Et c'est la question qu'on vous pose alors ce matin. Précisément, est-ce que vos peurs vous empêchent d'avancer? Et là, ça va être intéressant parce que ça revient exactement à ce que tu es en train de dire. À partir du moment où une peur nous empêche d'avancer, c'est parce que là, on a une maudite bonne raison d'y travailler à tous les jours pour essayer de la surmonter.
Oui.
514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Est-ce que vos peurs vous empêchent d'avancer? On en parlait ce matin, nous autres, de nos peurs. Hein? C'est
quoi
au quotidien?
Parce qu'on fait l'effort quand même de se mouiller. Toi, t'as peur de quoi?
Mais toi, t'as l'air... Je pense que l'image que tu projettes, Guillaume, c'est le genre de gars qui, un, a peur de rien. Ou s'il a peur de quelque chose, 24 heures plus tard, il l'a surmonté puis c'est fini, il n'a plus peur.
Ben moi, je dirais, j'ai tout le temps peur de tout. Moi, dans ma peau, là, je me sens pas confiant. Là. Je me sens pas que j'ai pas peur ou que j'ai pas d'émotion. J'ai peur un peu de tout, mais j'ai pas peur de la peur. Fait que ça, je te dirais, avec le temps, tu deviens un petit peu plus ami-ami avec le fait que c'est correct d'avoir des peurs, puis que là, c'est une opportunité pour moi de prendre des nouvelles responsabilités, à l'avoir, et de me dire, si j'affronte ces peurs-là, ça veut dire que ça va me faciliter l'accès à un but important, au début important que j'ai. Donc, avec le temps, tu développes l'habitude de dire, non, c'est correct d'avoir plein de peurs, puis là, mais je les garde sous contrôle, mais surtout, j'essaie de ne pas éviter. Fait que c'est surtout la lutte contre l'évitement que j'essaie de faire et qui est aussi recommandé, mais pas avoir de peur, je pense pas que c'est humain, puis je pense que ça fait partie de la normalité.
De quoi t'as peur, mettons?
Ben, j'ai peur, ben, à part des fantômes, là, mettons, parce qu'on a découvert qu'on avait ça en commun.
Oui, peur des fantômes, peur des esprits.
Ben, tu vois, une peur que j'ai identifiée plus dernièrement, c'est que j'ai peur, mettons que je vais avoir un enfant, de pas être en mesure de créer la bonne ligne entre à quel point je dois être structuré dans son encadrement et à quel point il doit être libre. Donc, fois, j'ai peur de pas savoir ce dosage-là et que parce que je suis pas conscient de certaines parties de moi, je vais plus contrôler certaines choses que je devrais pas contrôler, par exemple. Fait que c'est pas des grosses peurs, là.
Non,
ça m'empêche pas de dormir.
Même,
mais ça me préoccupe. Je me dis, OK, mais comment je vais faire pour faire ça? Qu'est-ce que ça veut dire, cette peur-là, pour moi? Puis comment je vais progresser là-dedans? Puis comment je vais pratiquer, par exemple, laisser plus aller certaines choses ou contrôler des choses, mettons, différentes que ce que je pense contrôler. Donc, il faut que je me fasse un petit plan d'action là-dessus. Fait que, tu sais, peut-être que les gens vont dire, ouais, mais là, Guillaume, c'est des peurs théorique, conceptuel, mais pour moi, c'est une vraie chose. Mais plus tu te connais, plus tu es capable d'identifier une peur précise et c'est là la force. Plus c'est précis, plus tu fais un plan d'action précis, plus ça va être fort.
Alors les auditeurs, est-ce que vos peurs vous empêchent d'avancer? On a Catherine qui est avec nous. Bonjour Catherine.
Bon matin.
Bon matin.
Félicitations pour votre émission, c'est écœurant. J'adore ça, je passerai ma journée à vous écouter sérieux.
Merci
beaucoup.
Et puis, ben moi, dans le fond, je suis venue au monde dans une famille où tout était comme un peu dangereux.
Okay.
Puis que il fallait pas trop, tu sais, il fallait faire attention, puis si tu fais telle affaire, ben là, tu as telle conséquence, tout ça. Fait que, tu sais, moi, j'ai grandi en ayant des craintes. Puis là, en vieillissant, ben moi, j'ai tout mis ça de côté. J'ai fait non. Là, je passais pas ma vie à avoir peur, c'est pas vrai. Là, je passais pas ma vie enfermée dans un garde-robe. Je vais affronter mes peurs, puis je m'expose tranquillement. Comme moi, j'avais extrêmement peur de l'eau. Puis une journée, j'étais en voyage au Sandbank, puis je me suis dit, OK, là, j'ai plus peur. Là, ça va faire, là, c'est irrationnel, il y a rien qui peut m'arriver, tu sais, à part que de me noyer, là. Mm-hmm. Mais puis je sais nager en plus, tu sais. Fait que j'ai mis mon cerveau à off, je suis partie à courir en disant j'ai pas peur. Puis j'ai couru dans l'eau, ligne droite où j'ai plongé, puis j'ai ressorti de l'eau en me disant ah, finalement c'était pas si pire que ça. Puis j'ai commencé à faire un peu de l'exploration de rivière. J'ai peur des hauteurs, tu sais. Fait que je vais pas aller à la ronde faire un manège de Mongol, mais je vais aller, mettons, dans une tour très haute que je sais qu'il n'y a pas de danger, puis que là, je vais aller affronter cette peur-là. Mm-hmm. Moi, je suis plus maintenant dans... J'affronte mes peurs, je m'expose un petit peu, puis j'ai des expériences à vivre, puis c'est correct que je les vive, puis j'essaie toujours d'affronter mes peurs pour pas me limiter.
Mais Catherine, dites-nous, c'était comment quand vous avez grandi dans votre famille? Vous dites que c'était une famille où on avait un peu peur de tout. Là. Concrètement, ça se passait comment?
Ben, ça se passait que, tu sais, mettons, si on allait dans un bain de foule, ma mère, elle avait extrêmement peur. Elle était agoraphobe.
OK.
Puis, elle aimait pas ça. Fait que là, elle, c'était des réactions de son corps là, qui étaient plus contrôlables. Puis là, moi, un jour, j'ai fait, ouais, moi non plus, je suis pas super à l'aise, tu sais, là-dedans. Fait que, tu sais, j'ai été un peu comme à contresens de qu'est-ce que ma mère, tu sais, était. Puis avant qu'elle décède, tu sais, elle m'avait dit ça. Tu sais, moi, je suis contente parce que je le vois que, tu sais, quand t'as des peurs, ben, tu les affrontes, contrairement à moi, tu sais. Fait que j'étais comme un peu contente, tu sais, de voir ça. Mais, tu sais, chez nous, c'était vraiment ça, là. Fallait toujours faire attention parce que, il fallait pas se faire kidnapper, il fallait pas tomber, il fallait pas se blesser parce que tu vas mourir. Tu sais, j'étais comme,
c'était une grande anxieuse, là, votre mère, c'est ça?
Ouais. Elle était assez anxieuse. Tu sais, elle voulait pas qu'il m'arrive à rien. Tu sais, j'étais son précieux, puis c'était son seul enfant. Fait que, tu sais, elle me couvait, puis elle me protégeait, puis ça. Puis là, en vieillissant, il a fallu à un moment donné que je me débarrasse de cette petite carapace-là qui s'était formée un peu autour de moi. Puis j'ai appris à affronter mes peurs.
Catherine, ben, merci beaucoup.
C'est extraordinaire. Puis, tu sais, l'idée, hein, c'est pas de triompher de toutes les peurs. C'est développer l'attitude et l'habitude de dire je vais m'y exposer dans une zone qui est sécuritaire. Hein, parce que tu peux pas faire de l'exposition si tu stimules ton anxiété ou ta peur à 10 sur 10 d'anxiété. Ça marchera pas ton processus d'exposition parce que tu vas augmenter soit un traumatisme et ton cerveau va vouloir éviter encore. Donc, la pire chose, c'est que tu t'exposes avec 10 sur 10 de peur et tu évites à ce moment-là. Donc, tu crées un encodage de peur élevé. Donc, tu viens d'empirer ta peur. Donc, c'est ça l'art de l'exposition. C'est là l'art de s'entraîner. Par exemple, au gym, tu commences pas avec les poids les plus lourds ou faire la tâche la plus difficile. Tu y vas progressivement. C'est la même chose avec le système anxieux. Donc, tu t'exposes, mettons, à 3 sur 10, 4 sur 10, mais tu t'offres. Tu t'offres jusqu'à ce que ton cerveau désactive cette peur-là. Et là, ton cerveau commence à réencoder. Et là, tu gagnes de la force. Donc, c'est toute une stratégie.
On poursuit le tout après la pause. Est-ce que vos peurs vous empêchent d'avancer? 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. Vous écoutez Ni Noir ni Blanc. On se retrouve dans quelques minutes.
Ni Noir ni Blanc. Pour une vision plus large des choses, au réseau Cogeco, voici Élisabeth Crête et Guillaume Dulude.
On parle des peurs ce matin dans l'émission. Est-ce que c'est utile de surmonter nos peurs? Est-ce que c'est essentiel de le faire? Et on comprend que, bon, ce l'est, oui, quand nos peurs nous empêchent d'avancer. Et c'est ce qu'on vous pose comme question ce matin. Et Guillaume, juste avant la pause, on a parlé à Catherine qui nous racontait qu'elle vient d'un milieu, une famille où tout était un peu une source de crainte et de peur. Oui. On comprend qu'il y avait une mère très, très anxieuse là-dedans qui a un petit peu donné ces peurs-là à Catherine. La peur, c'est contagieux, Guillaume, jusqu'à un certain point. Là.
Oui, parce que dans l'éducation, surtout quand t'es avec des parents qui ont peur et qui te surprotègent, ils enseignent l'évitement. C'est-à-dire, ils enseignent à éviter les défis dans l'environnement. Donc, on bâtit des schémas où l'environnement est non seulement une menace, c'est dangereux, mais surtout on est impuissant face à cet environnement-là. Donc notre stratégie par défaut, c'est l'évitement. Et c'est la pire chose au monde. La pire chose que tu peux faire, c'est tu fais la promotion explicitement ou implicitement de l'évitement des défis. Parce que là, tu bâtis une vision du monde qui est une menace. Donc tu bâtis pas la collaboration entre toi puis ton environnement. C'est la protection de l'environnement. Donc tu deviens plus défensif. Et plus une personne évite l'environnement ou les défis en général, plus une personne va se sentir bien dans sa peau. Tu ne peux pas être fier de toi, te sentir bien, te sentir efficace, sentir que ta vie a un sens si ta vie est une cumulation d'évitements. Mm-hmm. C'est impossible, impossible, impossible. Quand même, tu dis oui, mais je vais faire la liste de mes valeurs et de mes qualités. Le cerveau s'en fout comme à l'an 40 de ça. La seule affaire que le cerveau il veut savoir, c'est est-ce que je peux faire quelque chose d'intelligent ici? J'ai-tu un contrôle sur quelque chose? Est-ce que je peux atteindre des objectifs? C'est la seule affaire. Le reste, c'est des mots. Le reste, c'est du concept.
Allons parler à Martin maintenant. Bonjour, Martin.
Bonjour, ça va?
Oui.
Bon, en parlant d'affronter ses peurs, appelez à la radio en premier.
Ben, bravo! Bravo, Martin!
C'est fait!
Bon, félicitations pour votre émission. Je suis un auditeur du 93.3 d'habitude, fait que je vous connaissais pas.
Ah, OK. Bonjour.
Puis, vous êtes intéressant. Puis, le sujet de matin m'a particulièrement interpellé.
Ah oui, pourquoi?
Ben, je fais partie de la gang qui ont affronté leurs peurs. Et okay. Puis, je voulais témoigner des extrêmes bienfaits que ça apporte.
C'était quoi vos peurs, exactement? Ouais.
Bon, ben, dans le fond, j'ai réalisé à l'âge adulte que j'avais un trouble d'anxiété parce que j'ai eu un épisode que j'ai eu quelques attaques de panique là durant peut-être un 2 ans, 3 ans de ma vie maximum. Là.
OK.
Et puis, ça m'a amené à consulter. J'ai parlé à mon médecin de famille. Après ça, j'ai consulté un psychologue. Puis là, j'ai compris que j'avais génétique, environnemental, combinaison d'un peu tout de l'anxiété depuis l'adolescence.
Okay.
Puis ça expliquait beaucoup de choses qui m'étaient produites durant l'adolescence. Fait que là, ça m'a amené à consulter un psychologue. J'ai fait une psychothérapie comportementale, je pense qu'on appelle.
Oui, okay. Oui, oui. Ça sonne ça, là, pour les peurs, là. Oui.
Bon, c'est ça. Puis moi, c'était principalement pour les attaques de panique.
Okay.
Puis ça a été extrêmement efficace, là. Le problème n'est plus jamais survenu après la thérapie. Les mécanismes qu'il enseignait, là, ça a eu un effet là, sur moi là, incroyable. Puis là, je me suis rendu compte que ces mécanismes-là, moi, j'avais plein de petites phobies.
Comme quoi, mettons, donner des exemples?
Ben, des choses banales, comme par exemple les hauteurs, les insectes comme les guêpes, piqueurs.
Okay.
Puis évidemment, ben, quand je faisais des attaques de panique, ben, j'avais peur d'aller à des places où il y avait du monde à cause, j'avais peur de faire une attaque de panique.
Ouais.
Mais je combattais. J'ai toujours eu, comme même avant la psychothérapie, j'avais une attitude de combat, dans le sens que je me disais, c'est pas vrai que je sortirais pas, puis tu sais, je luttais de façon naturelle.
Okay.
Fait que c'est peut-être pour ça que la psychothérapie a si bien fonctionné. Mais après ça, les phobies, je me suis rendu compte que les mêmes mécanismes fonctionnaient contre les phobies. Fait que je me suis mis à les appliquer contre mes petites phobies du quotidien.
Mm-hmm.
Puis les phobies, la peur, quand qu'on évite, comme vous dites, ça peut juste augmenter, ça peut juste s'additionner. Ça diminuera jamais tout seul.
Oui.
Fait que oui. Là, il y a comme un effet d'enchaînement inverse. Le fait de commencer à en combattre une puis d'en combattre un autre, c'est devenu de plus en plus facile.
Oui.
Puis ça. J'exagère presque pas en disant que ça a changé ma vie, là.
C'est quand même
assez intense.
Et Martin, dans le fond, concrètement, ce que je comprends, c'est que vous êtes exposé de plus en plus à ces petites phobies-là pour en venir éventuellement à ne plus avoir peur. Mettons les abeilles ou les guêpes, à un moment donné, c'est parce que vous êtes exposé puis la peur a disparu, c'est ça?
Ben, c'est que, mettons, j'allais sur une terrasse prendre une bière avec des amis. J'y allais quand même, mais j'avais pas de fun. Tout mon plaisir était gâché par le fait qu'il y avait des gars qui me tournaient autour, puis j'étais jamais capable d'être en état détendu. J'étais toujours sur le nerf. Puis là, ça, c'est une des exemples, une des choses qui est disparue. Ça me fait plus cet effet-là. Mm-hmm. Puis là, j'ai 3 filles en bas âge. Puis je vois que c'est génétique. Là. L'anxiété, là, c'est pas les 3, mais il y en a qui ont une tendance anxieuse plus que d'autres, mm-hmm, à développer des phobies. Fait que là, je sais pas si c'est une bonne approche, mais moi, tout ce que je fais, c'est que je leur dis tout le temps que c'est normal d'avoir peur, puis qu'un jour, ils auront plus peur. Puis je les amène à rentrer en contact avec ce qu'ils ont peur. Mmh. Je vais donner un exemple très très banal. Dans ma cour, l'environnement autour de chez nous, j'ai planté le plus de plantes à fleurs possible, le plus de de végétation qui attire les insectes pour qu'on soit constamment en contact.
Okay.
Oui. Comme ça, je me dis, quand on est en contact avec ces éléments-là, même les enfants, je vois, là, sont rendus, ils s'intéressent aux abeilles, ils vont les voir à 2 pouces de la face, puis ça n'existe pas là, en ce moment, une phobie de ça, là, chez nous. Là.
Ah, ben mon Dieu, Martin, ça a bien réussi pour vous. Merci beaucoup d'avoir appelé. C'est incroyable à quel point l'exposition à petite dose, évidemment, là, il n'a pas mis la face de ses filles dans un paquet d'abeilles. Là. Il a juste mis des fleurs qui peuvent les attirer.
C'est ça, l'exposition sécuritaire.
Exactement, c'est ça. Parce que c'est vrai que il y a beaucoup de monde qui ont peur des abeilles et des guêpes qui vont s'empêcher d'avoir une belle terrasse ou un beau paysagement parce qu'ils ne veulent pas justement attirer ce type d'insectes-là.
Parce que l'évitement, là, si tu évites beaucoup, ton système anxieux est encore plus réactif à ce stimuli-là dont tu as peur. Donc, le cerveau, vu qu'il est plus anxieux, il va élargir sa zone d'évitement. Donc, tu évites de plus en plus de situations qui potentiellement peuvent être en lien avec ce stimulus-là. Donc, tu vas commencer à éviter les parcs, la nature, si c'est associé à des terrasses, tu vas éviter ça. Et plus tu évites, plus tu mets des X sur des zones de vie. Et c'est pour ça que ça ne fonctionne pas, l'évitement.
Puis tu vois, il y a Luc qui nous écrit au 9-8-9-8-5. Je ne savais pas que j'avais des peurs, mais je suis conscient en vous écoutant que je fais beaucoup d'évitement. Merci de m'avoir ouvert les yeux. Fait que je comprends qu'à partir du moment où on fait de l'évitement, c'est associé nécessairement à une peur. C'est ça?
Oui.
OK.
Oui,
c'est automatiquement. Ça. Même si on ne le sait pas, c'est ça pareil.
C'est ça. Mais le défi, là, puis c'est ce qu'on fait en psychothérapie. Puis, tu sais, là, on parle de peur, par exemple, physique. Je ne sais pas, des serpents, des insectes. OK. Ça, c'est facilement identifiable. Mais tu as des peurs qui sont beaucoup plus subtiles, comme par exemple la peur de l'exposition sociale, la peur du jugement, la peur de l'échec, la peur de la déception. Ce sont toutes des peurs, ça. Et donc là, c'est moins tangible, mais pourtant ça empêche une personne de réussir. Ça, c'est très, très grave parce que c'est des formes d'évitement qui sont plus subtiles, c'est moins conscient, et donc on peut pas faire ressortir notre potentiel si la masse d'évitement est trop importante. Donc, c'est une partie du travail qui est fondamentale. Si tu veux révéler ton potentiel, tu dois contrecarrer les formes d'évitement. Donc, tu dois identifier les sources d'anxiété.
Puis, qu'en est-il des peurs irrationnelles? Je vais te donner un exemple. Si tu parles à quelqu'un qui dit, ben moi, dans la vie, j'ai peur des requins. OK, mais quand est-ce dans ta vie que tu as été face à face à un requin? Jamais, là. Je dis, moi aussi, si je tombe face à face à un requin blanc, ça se peut que j'aie peur, mais ça m'empêche pas de dormir le soir.
Ouais.
Il y a des gens qui ont des peurs pour des choses qui n'existent pas ou qui arriveront pas devant eux dans les médias, qui côtoient pas au quotidien. Une peur irrationnelle. Ça, pourquoi ça arrive?
C'est-tu un trouble anxieux?
Ben, genre, les requins. Toi,
moi, dans mon quotidien, c'est irrationnel, ça?
Ben, c'est parce que t'en vois jamais. T'en vois jamais de requins. Ça arrive jamais dans ton quotidien que t'es face à face à un requin.
Okay,
fait que tu stresses pour une situation qui arrivera jamais dans ta vie. Tu comprends?
Ouais, OK.
Fait que pourquoi ces peurs-là arrivent et te causent de l'anxiété alors que ton cerveau devrait te dire « Hey, jamais que tu vas être face à face à un requin. Cette peur-là devrait même pas exister. C'est pas dans ton quotidien. » Tu comprends?
Ben c'est parce que là, on parle de requin, mais par exemple, si le cerveau, il pense qu'il y a une chance pour que quelque chose arrive et tu as été habitué à éviter beaucoup dans ta vie, ben ça fait partie de l'espèce d'extrapolation que le cerveau fait. Donc, il va essayer de prévenir encore plus des risques à distance jusqu'à ce qu'à un moment donné, il n'y ait même plus de lien avec la réalité. Et là, on commence à flirter avec le trouble anxieux.
Okay.
Comme par exemple, le trouble d'anxiété est généralisé. Un moment donné, ça plus rapport, tout est un scénario catastrophique, théorique, mais statistiquement, les chances pour que ça arrive, ça s'applique même plus. Donc, puis l'argument de ces gens-là, c'est « oui, mais c'est possible que ça puisse arriver ». Oui, mais tout est possible.
Ouais,
c'est quoi les chances? Parce que là, faut tout le temps se ramener à la vie humaine. Là. Et c'est ça qui est difficile. Et il faut travailler pour désactiver ce système-là hyper vigilant ou hyper anxieux du système limbique.
On doit s'arrêter encore une fois pour une pause. Est-ce que vos peurs vous empêchent d'avancer? C'est ce qu'on vous pose comme question ce matin. 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. On a Daniel qui attend pour nous parler. On va vous rejoindre tout de suite après la pause. Vous écoutez Ni Noir ni Blanc.
On parle de tout avec vous. De retour à Ni Noir ni Blanc avec Élisabeth Crête et Guillaume Dulude au réseau Cogeco.
C'est important de parler des peurs aussi en lien avec les enfants. Hein. Quand on en parlait, les stratégies parentales vont influencer beaucoup. Je sais pas si toi, tu as été poussé beaucoup là, toi, à t'exposer très jeune.
Ben, j'ai pas de peur qui me vienne en tête vraiment, à part les esprits puis les fantômes. J'ai pas de souvenir d'avoir été poussé tant que ça non plus. Fait que probablement que oui, parce que je m'en souviens pas. Tu comprends?
Ben, ça se peut que ça soit une éducation naturelle, ouais. Mais ça se peut que tu aies un tempérament qui va plus vers la nouveauté. Okay? Ouais. Parce que les enfants, il y a toutes sortes de personnalités. Bon, on va pas appeler ça personnalité durant l'enfance, on va appeler ça plus tempérament. Puis il y a des enfants qui sont plus inhibés. Okay? C'est-à-dire qu'il y a des enfants qui sont plus naturellement anxieux, sont plus gênés, sont plus inquiets. Ils voient la nouveauté comme étant plus des sources de menaces possibles. Donc, il y a toutes sortes de personnalités avec les enfants. Donc, là, comme parents, ce qu'il faut faire avec des enfants qui sont plus inhibés, c'est ne pas les surprotéger et leur montrer qu'ils peuvent continuer à explorer et qui vont pas en souffrir. Donc, c'est stimuler l'exploration, même s'ils sont plus gênés, même s'ils ont un peu plus peur, et de pas les protéger trop tôt. Ben, trop tôt, faut pas les protéger. Au contraire, faut leur montrer qu'ils sont, même s'ils ont un peu peur, ils sont capables de faire face à de la nouveauté. Donc, ils apprennent à gérer des stimuli nouveaux, puis ils apprennent à avoir confiance en eux qu'ils sont capables de rester intègres, sont capables de rester sécuritaires, et sont capables de profiter de ces éléments nouveaux-là.
Mais quand t'es toi-même anxieux, ça doit être assez difficile à mettre en application.
Bon, voilà, là, tu peux pas, tu peux pas montrer à un enfant ce que tu n'as pas réussi à faire toi-même. Ce qui fait en sorte que quand tu regardes un enfant qui se comporte d'une certaine façon, s'il y a une lecture qui va être très parallèle avec ce que le parent fait ou ne fait pas pour lui-même.
On a Daniel maintenant pour nous parler. Bonjour, Daniel.
Bonjour.
On vous écoute.
Bon, moi, votre émission me fait poser encore plus de questions.
Bon, t'es-tu anxieuse un peu ou...
Ah, moi, beaucoup.
Ah oui?
Là, moi, je vous écoute tout le temps et je trouve beaucoup de réponses. Mais là, aujourd'hui, vraiment, j'ai comme... je vais vous expliquer, quand j'étais petite, j'ai compris vite que si t'affrontes, ça se calmait à cause d'une souris. Okay. Parce que je m'étais dit... Si je me sauve, je ne saurais plus où aller parce qu'elle était dans la maison. Donc, j'ai affronté, je l'ai vu, j'ai ouvert le tiroir, j'ai trouvé Kyo finalement. Je n'ai jamais eu peur des souris après.
Okay.
J'ai toujours pensé ça. Bon, tu t'en vas là. J'avais peur des araignées. J'ai encore peur, mais je suis capable de les tolérer. Ils ne m'empêchent plus de dormir. Je me rappelle avoir dormi 8 jours sur le divan parce qu'il y avait eu une araignée dans ma chambre. Mm-hmm. Des choses comme ça. Mais moi, aujourd'hui, je conduis tous les jours. C'est ma job. Je fais 60 000 km par année.
Okay.
J'ai peur sur la route.
Ah oui?
Moi, j'ai peur sur la route. Je me mets à paniquer des fois, des grosses crises de panique quand je suis sur un pont, quand je vais trop vite, quand c'est sur l'autoroute. Des fois, j'évite. Des fois, je me respecte et je dis, OK, aujourd'hui, là, regarde, je vais passer à côté. Mais souvent, je me parle et je dis, ah ouais, go. Mais ça m'empêche pas de faire des crises de panique. Puis, tu sais, c'est... Je sais que, comme exemple, je faisais du Uber à Montréal tous les jours, n'importe où à Montréal, n'importe quelle autoroute, puis ça me dérangeait plus. Des grands bouts, ça me dérangeait plus, puis tout d'un coup, ça revient.
Mm-hmm.
Là, tu parles-tu des crises de panique qui reviennent? C'est ça l'inquiétude principale?
Oui, des fois, c'est des crises de panique, mais exemple, là, de ce temps-là, je fais juste de la livraison Uber Eats. Je me promène.
Oh, c'est beau, on est encore là. Non, c'est correct, c'est une petite erreur. On est là.
On se promenait, tu sais, je me promenais, j'allais à Montréal, partout. Et là, ben, regarde, vu que je me promène plus sur la Rive-Nord et tout ça, et si j'ai à aller à Montréal, là j'anticipe, puis je peux avoir de la misère à dormir.
Mais ça, c'est intéressant, Daniel, parce que là, vous vous exposez beaucoup à votre crainte et malgré ça, vous avez peur quand même. Je ne sais pas, Guillaume, ce que tu en penses, non?
OK, ben, tu vois, c'est ça. C'est pour ça que la psychologie existe. C'est le cerveau, il y a toutes sortes de façons d'abrier ce qu'on appelle le stimulus ou le déclencheur. Alors là, j'entends, mais là, c'est ça, là, je vais faire un petit peu les coins ronds, là, puis, mais il ne s'agit pas de seulement s'exposer à la route. Ça se peut que la route ne soit pas le réel déclencheur ou la réelle source de la peur. Ça semble plus autour du fait d'avoir une attaque de panique dans une circonstance que tu ne veux pas. Donc, bon, alors là, c'est ça. C'est que pour le cerveau, il peut inventer n'importe quelle source de déclencheur. Là, moi, ce que j'entends, puis comme je fais ça vite, là, j'entends plus l'évitement de la crise de panique elle-même plutôt que de la route. J'entends, moi, je pense pas que c'est ça la cause de l'anxiété. Je pense que c'est l'attaque de panique que tu veux éviter elle-même. C'est comme l'évitement de la peur elle-même. Et là, ça va vite parce que ton cerveau va vouloir éviter les premières sensations qui peuvent t'avertir qu'une attaque de panique s'en vient. Donc là, t'es dans ton véhicule. Tu dis non, il faut que je m'expose, mais ton cerveau, il essaye pas d'éviter la route, il essaye d'éviter la sensation elle-même que ça va se produire. Donc moi, ce que j'irais là globalement, c'est moi j'irais te pratiquer à essayer d'avoir des attaques de panique. Mais évidemment, il y a une façon de le faire. Moi, je te suggère vraiment d'être encadré pour ça. Mais pour traiter des attaques de panique, il y a des psychologues qui sont spécialisés pour ça. Mais il faut tranquillement s'exposer à ces sensations-là, désamorcer la peur de ces sensations-là et aussi avoir un plan de dire, peu importe ce qui se passe, je suis correct. Peu importe où je suis, que je suis sur un pont, pas sur un pont, même si j'ai ces sensations-là, je n'ai plus besoin de les éviter mentalement parce que l'évitement mental va avoir tendance à faire un espèce de feu de paille. Donc, il faut vraiment bien identifier la source de l'anxiété.
Et ça, c'est intéressant parce que parle à des gens qui ont déjà fait des crises de panique. La peur de faire des crises de panique embarque par-dessus toutes les autres peurs.
Fait que ça a l'air comme si c'est l'environnement qui cause ça. Non, l'environnement déclenche ta préoccupation, par exemple, de faire une attaque de panique. Donc, c'est l'attaque de panique elle-même et ses conséquences. Parce qu'il y en a qui vont dire, oui, mais j'ai peur que si je fais une attaque de panique, j'ai de l'air fou. Donc, ça va être une partie d'exposition sociale. Tu veux pas avoir honte versus les autres. Tu veux pas avoir peur de mourir. Il faut regarder ce qu'il y a dans la tête. Qu'est-ce que le cerveau il essaie d'éviter? C'est pour ça que c'est précis, un cerveau. Il y a quand même 80 milliards de neurones là-dedans. Donc, ça peut pas être de l'exposition qui est trop... rough, si je peux dire. Ça prend vraiment de la précision pour que ça marche. Fait que des fois, il y a plusieurs peurs qui sont les unes par-dessus les autres, mais là, il faut dire c'est quoi la peur la plus puissante qui stimule ça versus les causes qui sont un petit peu parallèles.
Allons voir Martin maintenant. Bonjour, Martin.
Bonjour à vous deux.
Allô?
Oui, écoutez, c'est un petit peu drôle, là, ma situation. Je suis content que vous abordiez ce sujet-là là, au niveau des peurs. Écoutez, je suis agent de sécurité et moi, ma peur, c'est la confrontation. Autant dans mon travail que dans ma vie amoureuse et familiale.
Ouais.
Vous n'avez pas choisi le bon métier pour ne pas confronter personne, par exemple?
Non, en effet, mais je vous dirais aussi que je suis allé lire sur les blessures de l'âme et je crois que mon problème vient de là.
D'où exactement?
Les blessures de l'âme, donc soit l'abandon ou... la trahison, l'injustice, etc., etc.
Des choses que vous avez vécues dans le passé, c'est ça?
Oui, exact.
Puis,
OK.
Faites-vous élaborer un petit peu?
Écoutez, quand j'étais jeune, quand il y avait de la confrontation, je me taisais, j'exprimais pas vraiment mes sentiments envers mes parents. Donc, j'ai amené ça aussi dans mes relations amoureuses.
Oui.
Et dans le fond... là, dans mon domaine, je crois même que ça peut m'empêcher là, de progresser à des postes supérieurs.
Mais qu'est-ce qui vous a attiré vers ce métier-là, d'abord?
Aider mon prochain.
OK.
OK.
Que ce soit face à un danger ou peu importe, là, parce que dans le fond, des règlements au niveau de la sécurité, là, c'est fait justement là, pour empêcher les gens là, soit de se blesser ou de faire des manœuvres un peu dangereuses.
Ben oui.
OK, alors, si tu me permets, je vais te proposer quelques éléments. OK, c'est-tu correct?
Est-ce que tu es en train de boire? Oui, oui, oui.
Oui, OK. Alors, tu sais, tu comprends, on se connaît pas, mais on va faire comme si on se connaît un petit peu. OK? Mais c'est ça, puis tu verras un petit peu ce que tu sens qui s'applique à toi. Alors, la première chose, c'est sûr que quand on a un très fort d'agréabilité, okay, les hommes peuvent avoir un fort trait d'agréabilité. On est plus susceptible d'être affecté par l'opinion des autres. Ça, c'est sûr. Si on est déjà plus inhibé au jugement social, on a plus peur du jugement social dès l'enfance, c'est sûr que c'est une tendance inhérente. Ça fait partie un petit peu de notre tempérament. Si ça n'a pas été renforcé par tes parents, c'est-à-dire non, tu dois t'affirmer quand même, tu dois tolérer le fait que les autres ne sont pas d'accord avec toi, puis ça a été beaucoup de l'évitement, bien, c'est sûr que là, tu as bâti un système d'évitement de l'expression. Mais là, c'est sûr que là, tu t'es un petit peu peinturé dans le coin parce que là, ta responsabilité, c'est de prendre ta place et de faire respecter les choses, même si les gens ne sont pas d'accord. Donc là, c'est comme, t'es comme confronté à ça. Est-ce que c'est relié à des traumas de l'enfance? Moi, j'adhère pas à cette hypothèse-là. Je pense que c'est quelque chose qui arrive beaucoup plus progressivement, qui est un mix d'évitement, qui est un mix de culture familiale, un mix de traits de personnalité, de tempérament. Moi, j'irais pas dans cette voie-là, cette interprétation-là de trauma. Moi, j'irais plus dans, OK, on va pratiquer ça. Tu vas pratiquer ton affirmation personnelle. Tu vas pratiquer à émettre une opinion, à écouter des opinions différentes, puis à tolérer ça. Donc, c'est une pratique. Donc, ça, c'est une pratique un peu de cette phobie-là. C'est comme un peu ton araignée à toi. Et progressivement, tu vas t'endurcir. Mais c'est sûr que là, l'écart est grand, c'est-à-dire comment toi tu te sens versus ce qui est exigé de ton travail. Puis là, à un moment donné, si ton travail te rend trop malheureux, ben là, faut, à un moment donné, c'est peut-être pas le meilleur travail là pour toi. Mais ça, ça va faire partie, je pense, de tes réflexions au fur et à mesure que les choses vont avancer dans ce type de pratique-là.
C'est incroyable à quel point l'environnement nous pousse à toujours penser que nos actions ou nos émotions du moment sont liées à un trauma du passé.
Mais la psychologie a beaucoup contribué à ça, parce que ça vient de vieilles philosophies de ce qu'on appelle trouver une cause du comportement, comme si c'est une cause unique. C'est rare, c'est extrêmement rare une cause unique, parce que tu peux pas relier un comportement précis à une cause dans ton passé. Des fois, oui, comme par exemple l'état de stress post-traumatique, bon, on sait qu'il est arrivé un vrai cataclysme, un vrai événement. Mm-hmm. Là, on peut plus le relier, mais c'est rare. Dans la vie quotidienne, c'est une synergie d'un paquet de facteurs, d'évitement, de micro-stress, puis tranquillement, c'est la façon dont ça grandit dans une personne. Fait que c'est pour ça qu'il faut pas sursimplifier les choses. Mais la bonne nouvelle, c'est de dire, on peut changer ça. Parce que si c'est pas une cause unique qui est dans le passé puis qu'on peut pas changer de toute façon, ça veut dire qu'on peut ce qu'on appelle apprendre des choses. Et c'est ça la bonne nouvelle. On peut changer des affaires.
Mais peut-être qu'il y en a qui veulent pas changer des affaires.
Ben, ça, c'est une autre question.
Qui se confortent dans le rôle qu'ils ont présentement.
Ou que c'est la faute des autres.
Aussi, aussi. Ouais. On doit s'arrêter pour une pause. Est-ce que vos peurs vous empêchent d'avancer? 514-790-9850 ou le 1-866-790-9850. On vous rejoint dans quelques minutes.
Ni blanc, pour une vision plus large des choses. Au réseau Cogeco, voici Élisabeth Crête et Guillaume Dulude.
Il nous reste quelques minutes pour parler des peurs encore. C'est vraiment intéressant de vous lire en passant. Il y a plusieurs personnes qui nous disent au 9-8-9-8-5 que je viens de comprendre mes peurs maintenant, je vais les affronter ou je vais les prendre de la bonne façon.
Ça, là, c'est les plus beaux commentaires que vous pouvez pas faire. Là, c'est ça.
Vraiment.
C'est ça le but.
Allons voir Nicole maintenant. Bonjour, Nicole.
Bonjour à vous. Moi, mes peurs partent d'un stress post-traumatique que j'ai eu en 94. Stress post-traumatique, là, suite à où ce que je travaillais, il y a eu un vol à l'armée.
OK.
Et ils sont emparés de l'arme du gardien. Donc, on sait que dans l'arme, ben là, excusez, là, mais c'est des vraies balles. Là. Donc, à partir de cet instant-là, c'est comme, OK, moi, je meurs. Ma fille et mon mari ne me verront pas rentrer à la maison ce soir. Et c'était sa partie de là. Mm-hmm. J'ai consulté. J'ai été près de 15 ans en thérapie. Mm-hmm. Et quand j'ai vu comme psychologue, psychiatre, et à chaque fois, on me disait, non, mais c'est parce qu'on n'a pratiquement pas besoin de dire quoi faire. T'es au-devant de ce qu'il faut que tu fasses. Là, oui, de l'évitement, j'en ai fait. Oui, j'ai perdu des années de qualité de vie que malheureusement j'ai pas pu offrir à ma fille parce que j'étais dans une bulle de sécurité, la peur d'avoir peur là.
Mais Nicole, concrètement, ça se traduisait comment dans votre quotidien? C'est que vous étiez surprotectrice avec votre fille, vous étiez surprotectrice avec vous-même, comment ça se passait?
J'étais surprotectrice avec ma fille, mais heureusement, j'essayais de doser. Au début, je voulais même pas qu'elle allait à l'école. L'école est la rue en arrière de chez nous. Je la vois de ma cour.
Okay.
Non, c'est dangereux, là. Puis on va la reconduire. Mon mari allait la reconduire. Non, c'est dangereux. Il peut y avoir une attaque dans l'école, là. Ma fille peut se faire enlever. Sortir avec ses amis, ça a été comme, oh, non, faut pas que je la brime, mais je le sais que c'est dangereux. Ça a pris beaucoup, beaucoup de temps et je remercie en tout cas ceux qui m'ont aidé, mes psychologues, psychiatres, malgré qu'ils me disaient, regarde, t'en fais pas mal toi-même, là. Faut mettre le pourcentage. OK, c'est quoi le pourcentage que cette catastrophe-là arrive? Au moment donné où j'ai commencé à mettre des chiffres, OK, ben là, mettons que le pourcentage dans ce que j'ai vu, il est pas très, très élevé. Mais moi, je le mettrais toujours à 120 là, au départ.
Dans le sens que, mettons, donc, c'est quoi les chances que ma fille se fasse kidnapper en chemin vers l'école? C'est peut-être 1%.
C'est ça.
Là, tu sais? Ouais, je comprends.
Ouais.
Okay.
C'est quoi les risques qu'il y ait une attaque dans l'école? C'est quoi les risques? Moi, je prenais même pas le transport en commun. Pour me rendre chez le psychiatre, là, ça, en métro, ça m'aurait pris une demi-heure. Ben, je prenais 2h30 d'autobus. Parce que j'étais pas capable. Le métro, j'aurais pas pu m'en sortir s'il arrivait quelque chose. Ça m'a pris des années. Mais on s'en sort. Mais pour ça, il faut aller chercher l'aide.
Exactement.
On s'en sort.
Nicole, merci beaucoup d'avoir appelé. Merci.
Puis bravo, hein. Des fois, c'est un long chemin. Oui. Mais la stratégie est la même. Puis l'art, c'est le bon degré d'exposition, pas lâcher, être persévérant. C'est, ça peut être long.
Puis on parlait de choc post-traumatique, justement, juste avant la pause. Ça n'est un bon. Là. Une attaque à main armée, c'est sûr que ça reste dans la tête de quelqu'un. Mais c'est fou quand même. Elle ne voulait même pas que sa fille ait à l'école.
Ah, mais c'est ça. C'est parce que le cerveau, quand il s'emballe, quand il part sur ça, sur le risque de l'environnement, il y a presque plus de fin. Puis ça me fait penser, en ce moment, on est beaucoup dans des courants de victimisation. Okay? En ce moment, l'environnement, c'est des méchants. Il faut aller à la lutte pour la justice. Hein? On a l'espèce de phénomène des woke et des social justice warriors. Donc, c'est une expression en anglais, là, mais bon. Cette victimisation-là, c'est de l'évitement, mais c'est compliqué parce que c'est un évitement qui est extrêmement bien fait, parce que c'est enrobé d'une espèce de vertu, d'une lutte, et ça donne une illusion d'un sens. Mais dans le fond, c'est une forme d'évitement. Et ce qui est très résistant, c'est que tu te mets en groupe là-dedans. Fait que plus tu es sûr que ton moyen y est bon, mais dans le fond, c'est de l'évitement, plus tu le fais avec d'autres personnes, plus ton moyen stratégique de survie, c'est l'évitement et la déresponsabilisation, ce qui fait en sorte qu'on n'est vraiment pas sorti du bois. Et c'est aussi ce qui explique que la maladie mentale monte en flèche. On comprend pas pourquoi. Donc, moi, je comprends pourquoi. C'est très clair pourquoi.
Il y a beaucoup de grands anxieux, alors, dans tous ces groupes de militants-là. On peut parler de
l'anxiété.
Et
c'est pour ça qu'ils n'en ont jamais assez. Tu comprends? C'est jamais assez pur. C'est jamais assez droit. C'est jamais assez juste. Parce que c'est de l'anxiété. C'est une forme d'évitement. C'est pour ça que ça nous prend des leaders dans la place pour dire, OK, là, ça suffit. Voici comment ça marche. Chacun prend ses responsabilités. Mais là, en ce moment, on n'est pas là-dedans. On est dans la vertu théorique. Puis on ne sait pas trop où on s'en va. Mais tout ça, c'est de l'évitement.
On a le temps de parler à Héloïse avant de terminer ce segment. Bonjour, Héloïse.
Bonjour.
Allô? Vous écoute.
Parfait. Donc, c'est drôle parce que même moi, mes peurs ressemblent à la madame, à Nicole, qu'elle s'appelait.
Oui.
Parfait, parce que moi, j'ai vraiment peur des invasions à domicile. En plus, c'est super irrationnel puis tout. Mm-hmm. Mais c'est pas de ça que je voulais parler, mais ma mère m'a toujours inculqué que la forêt, c'est épeurant. Le noir, sortir de soir, c'est épeurant.
Ouais.
Il peut toujours arriver quelque chose. Fait que probablement que les invasions à domicile doivent être liées à ça aussi. Mais
c'est possible.
Oui. Fait que maintenant, depuis 2015, j'ai suivi de la psychothérapie. J'ai été diagnostiquée avec un trouble d'anxiété généralisé. Puis depuis maintenant un an, j'ai décidé d'aller travailler sur la côte nord.
Okay.
Et je vis seule.
Oh,
quand je travaille là-bas.
Donc.
Je suis 7 jours là-bas, 7 jours chez moi, 7 jours où je suis avec mon chien parce que, tu sais, c'est ce qui m'aide. Mm-hmm. Parce qu'avec la zoothérapie, je suis confortable. Mais avec lui, je vais me promener seule dans le bois.
Wow. Comment tu vis ça? Comment tu trouves ça? T'es-tu fière de toi? C'est quoi, là?
Ah, vraiment. Sur le coup, là, j'ai réalisé que je me connaissais pas du tout.
Mm-hmm.
J'ai appris à me connaître, puis en même temps, j'ai réussi à découvrir, parce qu'avec mon chien, j'ai découvert d'autres choses. J'ai découvert que je suis une leader à l'intérieur.
Wow.
J'ai un excellent leadership.
Bon.
Héloïse, dites-moi.
Je me cachais, oui.
Héloïse, dites-moi, votre première nuit complètement seule sur la côte nord, là, la première nuit.
Là,
ouais, non, mais je veux savoir comment ça s'est passé pour vous. Ça a-tu été une nuit où ça a été difficile de dormir?
Oh oui. Oh oui.
Ben
ça
oui,
doit, hein?
Ben
oui.
Oui.
Toutes les hydros, là, étaient fermées. J'étais dans une chambre, heureusement, où ce que je voyais partout.
Bon, bon.
Que je vois pas.
Aïe,
ben,
aïe.
C'est ça, le potentiel, là, tu dis, je découvre la leader dans moi, tu découvres des forces. Mais les forces, elles sont là, mais s'ils sont enterrés par 25 000 tonnes de cochonneries puis d'anxiété, ben tu la verras pas, cette force-là. Fait que souvent, les gens ont beaucoup plus de potentiel et de qualité qu'ils pensent, mais ils travaillent pas sur l'anxiété, ils travaillent à être extraordinaire. T'es extraordinaire, mais c'est juste que tu sais même pas de quelle forme d'extraordinaire t'es. Fait qu'il faut travailler sur la base. Faut essayer arrêter de trouver des affaires magiques, là. Faut y aller à la base, puis là, la magie se révèle. Puis ça, c'est faisable.
Mais je me rends compte à quel point il y a beaucoup d'anxiété généralisée dans la société.
Oui,
c'est
oui.
Énorme. Puis est-ce qu'il y en a plus qu'avant ou on en parle plus qu'avant? Ça, il y a différentes écoles de pensée là-dessus. Là.
Mais, je pense les deux. On en parle plus, mais il y en a définitivement plus.
Ça, c'est clair aussi. Oui. Merci beaucoup d'avoir participé à ce
super beau
sujet. Vraiment. On s'en va à la pause, bulletin de nouvelles et au retour, on parle des excuses de Jeff Molson, mais des excuses en général.
Ouais.
Soyez là.